Chapitre 7. On appelle le christianisme religion de la pitié. La pitié est en opposition avec les affections toniques qui élèvent l'énergie du sens vital. Elle agit d'une façon dépressive. On perd de la force quand on compatit. Par la pitié s'augmente et se multiplie la déperdition de force que la souffrance déjà apporte à la vie. La souffrance elle-même devient contagieuse par la pitié. Dans certains cas, elle peut amener une déperdition totale de vitalité et d'énergie, perte absurde quand on la compare à la petitesse de la cause. Le cas de la mort du Nazaréen. Voici le premier point de vue. Pourtant, il en existe un plus important encore. La pitié entrave en somme la loi de l'évolution, qui est celle de la sélection. Elle comprend ce qui est mûr pour la disparition. Elle se défend en faveur des déshérités et des condamnés de la vie. Par le nombre et la variété des choses manquées qu'elle retient dans la vie, elle donne à la vie elle-même un aspect sombre et douteux. On a eu le courage d'appeler la pitié une vertu. Dans toute morale noble, elle passe pour une faiblesse. On est allé plus loin. On a fait d'elle la vertu. Le terrain est l'origine de toutes les vertus. Mais il ne faut jamais oublier que c'était du point de vue d'une philosophie qui était nihiliste, qui inscrivait sur son bouclier la négation de la vie. Schopenhauer avait raison quand il disait « La vie est niée par la pitié. La pitié rend la vie encore plus digne d'être niée. La pitié, c'est la pratique du nihilisme. » Encore une fois, cet instinct dépressif et contagieux croise ces autres instincts qui veulent aboutir à conserver et à augmenter la valeur de la vie. Il est tant comme multiplicateur que comme conservateur de toutes les misères, un des instruments principaux pour la surrection de la décadence. La pitié persuade du néant. On ne dit pas le néant, on met en place l'au-delà, ou bien Dieu, ou la vie véritable, ou bien le nirvana, le salut, la béatitude. Cette innocente rhétorique qui rentre dans le domaine de l'idiosyncrasie religieuse et morale paraîtra beaucoup moins innocente dès que l'on comprendra quelle est la tendance qui se drape ici dans un manteau de paroles sublimes, l'inimitié de la vie. Schopenhauer était l'ennemi de la vie. C'est pourquoi la pitié devint pour lui une vertu. On sait qu'Aristote voyait dans la pitié un état maladif et dangereux qu'on faisait bien de déraciner de temps en temps au moyen d'un purgatif. La tragédie, pour lui, était ce purgatif. Pour protéger l'instinct de vie, il faudrait en effet chercher un moyen de porter un coup à une accumulation de pitié si dangereuse et si maladive, comme elle est représentée par le cas de Schopenhauer, et malheureusement aussi par celui de toute notre décadence littéraire et artistique, de Saint-Pétersbourg à Paris, de Tolstoï à Wagner, afin de la faire éclater. Rien n'est plus malsain au milieu de notre modernité malsaine que la pitié chrétienne. Être médecin dans ce cas, implacable ici, diriger le scalpel, cela fait partie de nous-mêmes. Cela est notre façon d'aimer les hommes. Par elle, nous sommes philosophes, nous autres, hyperboréens.